Chapitre 10e. Depuis qu'Hélène était à Ivranche, il y avait un nom qu'elle entendait sans cesse et que de tous les côtés on lui cornait aux oreilles, celui de Mademoiselle de la Buissonnière. Cette vieille fille, fort riche, avait eu une jeunesse assez orageuse, racontait la chronique, et elle ne s'était point mariée parce qu'elle n'avait pas rencontré le prince charmant et puissant de ses rêves. Pendant 25 ans, elle l'avait vainement cherché et poursuivi. Puis, quand, malgré des expériences nombreuses, il avait été démontré pour elle qu'elle ne le rencontrerait pas, elle avait demandé à la dévotion, une dévotion militante, de satisfaire son besoin d'activité en l'occupant et en la distrayant. Or, ce n'était point là une petite affaire, car c'était bien la personne la plus vive d'esprit et de corps qu'on peut rencontrer, toujours en mouvement, avec 20 idées dans la tête, non de ces idées fugitives qui se succèdent d'heure en heure, mais tenace et obstinée, qu'elle poursuivait jusqu'au bout, sans les lâcher jamais. N'économisant pas plus son argent que son temps, elle s'était naturellement trouvée la directrice de toutes les œuvres pieuses de la contrée, non seulement à Ivranche, mais encore à Dilieu à la Ronde, imposant son autorité par tous les moyens et ne reculant devant rien pour réussir une chose qu'elle voulait. Les gens simples disaient qu'elle était la providence des curés, qui était sûre de trouver près d'elle tous les secours dont ils avaient besoin. Au contraire, les gens avisés, qui savent voir et réfléchir, disaient qu'elle était leur terreur, car les secours qu'elle leur accordait, elle les faisait payer cher, s'emparant d'eux aussitôt qu'ils avaient eu l'imprudence de s'adresser à elle, en leur imposant sa domination qui était despotique et de tous les instants. Dans les conférences, on s'excitait à secouer son joug, mais personne n'osait être le premier à se révolter. Ce qu'il y avait de certain, c'était que l'abbé Well, qui lui témoignait beaucoup de déférence apparente lorsqu'il se trouvait avec elle en public, la fuyait comme la peste, et que lorsqu'on l'invitait quelque part, son premier mot avant de répondre était « Avez-vous mademoiselle de la Buissonnière ?» Oui, il refusait. Non, il acceptait. Ce n'était pas elle qui aurait pris le souci de ne pas lui faire d'affaires et de respecter la paix et la tranquillité qu'il demandait. La paix, la tranquillité, c'était la mort pour elle. Mal avec le curé, elle était au contraire au mieux avec le vicaire en qui elle avait trouvé l'homme d'action qu'il lui fallait. De même, elle était au mieux avec la sœur Philigone. En arrivant à Ivranche, on avait demandé à Hélène si elle ne ferait pas visite à Mademoiselle de la Buissonnière, qui était présidente ou directrice de toutes les institutions charitables de la paroisse, et par les mains de laquelle devaient passer tous les secours dont pouvaient avoir besoin les enfants pauvres, vêtements, médicaments, habillements pour la première communion. À quoi bon? Elle n'avait pas envie de s'exposer à une nouvelle algarade. Celle du vicaire lui suffisait. Mais si elle n'avait pas voulu aller chez Mademoiselle de la Buissonnière, celle-ci, que rien ne retenait quand elle poursuivait l'exécution d'une idée, était venue à la maison d'école. Une après-midi, en remontant de sa classe dans son logement, Hélène avait trouvé la vieille fille en conversation avec sa grand-mère. Au mouvement de surprise qu'elle ne fut pas maîtresse de retenir, Mademoiselle de la Buissonnière répondit par un sourire. « Avant tout, il faut que vous sachiez que je ressens pour vous une vive sympathie. Vous pensez bien, n'est-ce pas, qu'en apprenant que vous veniez à Ivranche dans les circonstances présentes, j'ai voulu savoir qui vous étiez. J'ai donc pris des renseignements sur vous. Ceux qui m'ont été transmis m'ont touché. Vos malheurs, votre détresse, votre courage ne pouvaient laisser insensible une femme qui connaît les difficultés et les misères de la vie. J'ai donc été attiré vers vous, et j'ai résolu de vous rendre service. » Hélène s'inclina, n'ayant rien à répondre à cette ouverture. Il fallait voir où elle devait aboutir. « Vous comprenez bien, n'est-ce pas, continua Mademoiselle de la Buissonnière, que vous ne pouvez pas rester ici. Si vous ne vous en allez pas volontairement, après avoir fait l'épreuve de quelques-unes des difficultés qui vont vous assaillir, on vous forcera à partir. Vous me répondrez que justement, vous ne pouvez pas partir. En effet, j'ai prévu cette réponse, et c'est pour cela précisément que je suis venu à vous. Je vous ai dit que ce que j'avais appris m'avait inspiré une vive sympathie. Vous allez en avoir tout de suite la preuve. Pour partir, n'est-ce pas, il faut avoir quelque part où aller. Je viens vous offrir ce quelque part. » Malgré sa surprise, Hélène, qui se tenait sur ses gardes, ne fit aucune question. « Dites-vous bien, continua mademoiselle de la Buissonnière, que tôt ou tard vous serez obligé d'abandonner Ivranches. Si vous aviez la certitude d'être alors pourvu d'un autre poste, cela ne serait pas bien grave, mais vous en donnerait-on un? Il semble que la réponse doive être négative. On se compromet dans une lutte, on se fait des ennemis, de sorte que le jour où vous seriez forcé d'abandonner cette place, vous n'en trouveriez pas une autre, car l'administration, toujours lâche, vous devez le savoir, hésite à soutenir ceux qui se sont compromis pour elle. Eh bien, cette place que vous ne pourriez pas alors obtenir, moi je vous l'offre tout de suite, et je vous la garantis pour le nombre d'années qu'il vous plaira de fixer vous-même. C'est chez les dames de Saint-Joseph à Condé. Vous n'aurez pas de classe à faire. Vos fonctions seront à peu près celles d'un censeur dans un collège. J'ajoute que vous pourrez avoir votre grand-mère avec vous. Elle sera logée, nourrie, et on l'emploiera à la lingerie. Elle se tut pour laisser à Hélène le temps de réfléchir et de bien voir tous les avantages de ce qu'elle lui offrait. « Mais quand j'accepterai, » dit Hélène, après quelques instants, « cela ne ferait point fermer l'école laïque d'Ivranches, ce qui est le vrai but poursuivi, n'est-il pas vrai? Une autre institutrice me remplacerait. »«
Cela n'est pas certain. » »«
Et puis, si cette autre institutrice venait vous remplacer, ce ne serait pas beau. Elle ne se présenterait pas comme vous vous êtes présenté. » Elle ne nous inspirerait pas la même sympathie que vous, et alors on pourrait lui faire franchement la guerre. » Ce mot éclaira la situation qui jusqu'à ce moment était restée obscure pour Hélène. Ce qu'on redoutait en elle, c'était sa modération, ce qu'on appelait la façon dont elle s'était présentée. « C'est votre dernière parole qui dicte ma réponse, mademoiselle. Ceux qui m'ont envoyé ici veulent l'apaisement, non la guerre. Ce serait les trahir que d'abandonner le poste qu'ils m'ont confié. Vous refusez ?
Je dois refuser.
Mais c'est de la folie. Vous ne savez pas à quoi vous vous exposez, malheureux enfant.
Il est vrai que ce n'est pas cela que j'envisage.
Songez que c'est la lutte, et que dans la lutte, on ne ménage pas ses adversaires. Vous allez être en but à toutes les attaques, à toutes les accusations. On va remonter dans votre vie.
Tant mieux, car on verra que je n'ai rien à cacher.
Je le crois. Mais enfin, il y a dans cette vie un mariage manqué pour des raisons obscures. Il y a aussi, il y a surtout, un séjour au château de Courtomer avec un départ subit tout à fait étrange et inexplicable, au moins en apparence, car pour moi, je suis convaincu que vous pourrez l'expliquer quand vous voudrez. Seulement, le voudrez-vous, le pourrez-vous? Il y a des moments où l'odieux de l'attaque paralyse.
On ne se défend que quand on a besoin de se défendre, dit Hélène en se levant, et ce n'est pas mon cas.
Enfin, mon enfant, vous réfléchirez. Alors la raison ne pourra que confirmer ce que le premier mouvement décide.
Je vous reverrai.
J'aurai l'honneur d'aller vous remercier de la visite que vous avez bien voulu me faire. Lorsque Hélène rentra après avoir reconduit mademoiselle de la Buissonnière, elle trouva sa grand-mère installée à sa place ordinaire et tricotant vivement, la tête basse, le front sombre. Pendant assez longtemps, elles restèrent sans échanger une seule parole, puis tout à coup la grand-mère releva la tête. « Qu'as-tu répondu à cette dame ? » demanda-t-elle. «
À propos de quoi, grand-mère ? » ?»«
À propos de sa proposition d'aller à Condé ? » ?»«
Je lui ai répondu que je n'acceptais pas. » »«
Alors tu vas faire la guerre au curé ? » ?»«
Mais pas du tout, grand-mère. »
Madame Marguerite secoua la tête. « C'est grave, cela, réfléchis.
Ce sont des gens qui ont la main longue, et puis qui les attaquent, s'attaquent au bon Dieu.
Mais je n'ai jamais voulu les attaquer, ni attaquer le bon Dieu. » Elle secoua la tête plus fort.
« Enfin, je te préviens, c'est ton affaire. Moi, je veux mourir en paix avec le bon Dieu. »